Fontenotte et compagnie. Les personnages réels et imaginaires de Vendée Grand Sud vous emmènent en balade. Nicolas Bonifay.
Bonjour à tous. Deuxième épisode de notre émission à la découverte des différents Fontenottes de notre territoire. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter des histoires. Vous connaissez sûrement celle de Mulhusine, mais connaissez-vous Madame Léontine Girard, la dormeuse de chais? Nos explorateurs sont partis la voir ou la rencontrer. Écoutez.
Engouffre-toi dans ce petit passage couvert à droite, la rue de la Poêle. Qu'est-ce qui fait sombre ici? Ça me rappelle le couloir dans lequel on attendait la dormeuse de chez. Stop. Attends-la un instant. Elle va peut-être arriver. J'allais souvent la voir pour qu'elle soigne mes mauvaises notes à l'école.
Hé, ne rigole pas.
Je t'assure, elle avait vraiment ce pouvoir-là. C'était une brave fermière avec des mèches blanches qui dansaient autour de son visage. Pourquoi on l'appelait la dormeuse? Bah parce que c'est en dormant qu'elle avait ses pouvoirs magiques. D'abord, elle se tordait le poignet gauche, puis posait ses deux longues mains à plat sur un espèce d'oreiller tout crasseux. Elle frottait, le grattait.
Oh, oh mais teste donc, mais arrête donc de causer, Astur. Au faux qui dort, tu comprends? Laisse-moi dormir.
Elle s'endormait et elle voyait.
Ça y est! Ça y est! Il a avoué maintenant, il a avoué!
Elle voyait la potion à donner contre un mal des poumons.
Mais qu'est-ce qu'on est que t'attends pour os écrire tout de suite pendant qu'il t'ont dit?
Elle voyait où retrouver les gens, vivants ou morts.
T'as raison, mon gars. Le CP noyé est dans la Vendée. Te va le retrouver coincé sous la souche d'un saule.
Elle voyait où s'étaient perdus les animaux.
Ah, mon pauvre couillon, Thévo. Eh ben, elles avons pris le train, Thévo. Eh oui, toutes les ai baiffées fauchées. Et puis, ils sont loin, Astur.
Les objets perdus.
Ah, t'as perdu ton portefeuille. Eh ben, il peut te dire qu'on sera un gendarme qui te le ramènera chez toi. T'en retrouveras tous tes papiers dedans. Pour l'argent, faut pas rêver, parce qu'on en a plus.
Une bague de fiançailles.
Oh, petite sotte. Mais te rappelles pas que te l'as juste posée à côté de la poiloune quand t'as fait la lessive l'autre jour?
Une montre égarée.
Espèce d'ivrogne. Mais si tu buvais moins, tu l'aurais pas perdue, ta montre. T'as qu'à retourner au comptoir d'au bar où t'étais hier au cerf. À ta temps.
Avec son langage cru, la dormeuse de chais guérissait bon nombre de ses clients. Ils venaient de toute la France pour la voir. Ces histoires, ces légendes traversent les générations. La langue utilisée, ce patois, par la dormeuse de chais, traverse les époques. Et pour parler de ces sujets, je reçois deux Fontenottes, un nommé Mathieu Bouteiller de l'association d'Actrad, et la deuxième, Céline Cossard, la conteuse du Sud Vendée. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Je vais commencer par vous, Céline. Quelle Fontenotte êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites sur le territoire du Sud-Vendée?
Ce que je préfère faire sur le territoire du Sud-Vendée, c'est aller en forêt, vraiment. Parce que la forêt de Mervent, c'est vraiment un très très bel endroit. On est vraiment chanceux d'avoir cette forêt qui a un côté très magique, je trouve. Qui est vraiment, comme elle est en plus sur la fin du massif armoricain, on voit encore les gros blocs de granit. Y a l'eau, il y a tous ces arbres. Et ouais, c'est un endroit où on se sent bien.
Il y a forcément des légendes dans cette forêt de Mervent. Est-ce que vous pouvez nous en raconter ou celles qu'on peut trouver quand vous les racontez?
Alors oui, il y a plein de légendes, il y a plein de petits personnages aussi. Il y a des petites fées qui se cachent dans les arbres. Il y a des farfadets, des fradets, comme on dit ici. Ce sont des lutins qui sont souvent cachés également et puis qui s'amusent à faire trébucher, qui s'amusent à faire glisser les pieds. Et puis après, on a des personnages un peu plus merveilleux comme la biche blanche, qui est une fée biche qui souvent en forêt s'amuse à perdre les jeunes hommes ou les chasseurs. Et voilà, les entraîne dans son monde de fées.
Et le public que vous accueillez dans vos balades comptées, ils se prennent au jeu, ils les voient, ils se farfadaient?
Alors les enfants, oui. Ils les voient très très vite. Les adultes prennent un peu plus de temps, mais il y en a qui finissent par voir et par ressentir des choses.
À quoi ils ressemblent ces farfadets par exemple, ou cette biche blanche? Forcément, alors la biche, on l'imagine si on la voit, mais à quoi ils ressemblent ces farfadets dans
les
la forêt?
Les farfadets, alors ce sont vraiment des tout petits lutins, donc vraiment qui font pas plus de 10 cm. C'est rare de les voir, donc pour les décrire, c'est un peu compliqué. Par contre, par rapport à tous les autres lutins qu'il y a en France, eux, ils ont une particularité, c'est que ils sont souvent habillés avec des guenilles, des vêtements déchirés. Et il ne faut surtout pas leur offrir de vêtements parce qu'ils sont, vraiment vexés si on leur offre des vêtements.
Ils sont habillés? Ils sont comment?
Ils sont habillés en guenilles, mais pour eux, ce sont des vrais et beaux vêtements. Et je pense que c'est pour ça qu'ils se vexent si on leur offre autre chose.
Quoi. Alors, si on ne connaît pas les guenilles sur le territoire du Sondé, c'est quoi une guenille?
Ah, une guenille. Alors, je ne sais pas si c'est du patois. En tout cas, c'est un mot... Peut-être on le saura tout à l'heure, mais une guenille, c'est un vêtement déchiré, voilà, abîmé, tout simplement.
Donc on voit ces personnes-là se balader principalement dans la forêt de Mervent. Vous parliez des légendes comme la biche blanche, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette histoire de la biche blanche? Un synopsis un petit peu juste pour nous donner envie?
Pour donner envie, c'est une histoire donc, qui s'est passée il y a très longtemps. C'est un jeune homme qui est parti de la petite ville, de la petite bourgade de Vourvent. À l'époque, son père habitait dans le château, était châtelain, et donc ce jeune homme est parti à la chasse. Et au moment de cette chasse en forêt, il a vu une biche blanche, vraiment une biche magnifique, et elle était tellement belle qu'il a voulu absolument l'attraper. Toute la journée, il a persévéré, il a couru derrière elle sans jamais pouvoir l'attraper. Et puis à un moment, il l'a vu rentrer dans un château qui était en forêt, qu'il ne connaissait pas. Il est entré dans le château, la biche avait disparu, mais il y a une jeune femme qui est apparue à sa place. Évidemment, ils sont tombés amoureux et puis il est resté dans ce château. Et le jour où il a voulu revenir voir son père pour lui dire qu'il avait trouvé l'amour en forêt, eh bien... On se rend compte dans l'histoire que les siècles avaient passé et que finalement le monde d'où il venait n'existait plus. Il n'était que dans le monde de fées.
Cette forêt, elle est juste magique alors? Elle le rend amoureuse, mais elle reste aussi magique?
Et oui, un peu comme toutes les forêts, mais celle-ci particulièrement, oui.
Mathieu, quelle Fontenote vous êtes actuellement avec l'association d'Actrad?
Donc moi, je suis l'employé, le salarié de l'association d'Actrad. Donc le mot, juste pour expliquer, donc ça veut dire développement, art, culture et tradition en pays sud-Vendée. Et donc la particularité de cette association, c'est de mettre en valeur, sauvegarder la culture dite immatérielle, tout ce qui est lié bien sûr au conte, au chant, à la musique, à la danse, mais aussi à la mémoire. Et je suis vraiment très très attaché à la sauvegarde de la mémoire à travers mon travail quotidien, qui est ce qu'on appelle donc du collectage, c'est-à-dire aller souvent se déplacer chez les personnes anciennes, les personnes âgées, qui ont généralement un savoir important, mais que l'on retrouve pas dans les écrits, mais qui est oral. Qui se transmettaient de génération en génération. Et à travers donc, le collectage, on enregistre leurs témoignages de leur vie passée, de leur savoir-faire, de leur métier, des gestes, des histoires, des chants, etc.
Et la dormeuse de chais avait un langage assez particulier. Et on va peut-être savoir, est-ce que ce mot guenille, on parle du patois forcément, mais est-ce que ce mot guenille est patois, Mathieu?
Alors, comme disait ma grand-mère, guenille. Je pense que, je ne sais pas si c'est vraiment patois spécifiquement de Vendée, mais en tout cas, le mot guenille, guenille est largement utilisé. Et encore aujourd'hui, c'est peut-être un des rares mots, on va dire, oui, qui a été transmis jusqu'à aujourd'hui, même pour nos générations actuelles, pour définir oui, un vêtement de usé, troué. Voilà, exactement.
Le patois, c'est un langage, certes, mais ça vient d'où? C'est quoi ce patois? Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Pour certains spécialistes, pour définir de façon un peu plus scientifique, on parle de parlange. Alors, pour le patois sud-vendéen, on est sur un air géographique beaucoup plus large, finalement. On peut vraiment définir sur toute la partie de l'ancien Poitou, de la province du Poitou, donc la Vendée, les Deux-Sèvres et la Vienne pour aujourd'hui. Et on peut même aussi basculer dans tout ce qu'est la partie la Saintonge, l'Aunis, c'est-à-dire toute la région de la Rochelle et de la Charente. Donc là, on est sur une base d'après les spécialistes, sur le même vocabulaire, les mêmes termes utilisés. Et donc, on peut vraiment définir le parlange, le patois dit vendéen, comme une Allez, on va dire presque une vraie langue, même si elle n'est plus du tout écrite depuis l'époque médiévale, mais elle a perduré de façon orale jusqu'à aujourd'hui. Le début du XXe siècle, enfin fin XIXe, avec l'introduction de l'école obligatoire, a donné un sérieux coup de frein au patois. On sait aussi que la Première Guerre mondiale, les poilus, se sont tous retrouvés pendant de nombreuses années, 4 ans, sur le front, et ont dû tous finalement parler une même langue pour se faire comprendre, le français. Et donc après année, l'exode rural a fait que le patois a perdu de son importance, a continué à être parlé par les personnes âgées, mais actuellement le patois est vraiment est moins en moins utilisé, et c'est vrai que c'est à travers les chants, les contes, la danse qu'on peut essayer de faire revivre cette langue d'autrefois.
Céline, est-ce que les légendes parlent patois? Est-ce qu'on arrive encore à décerner, peut-être dans la forêt, on est dans cette forêt depuis tout à l'heure, mais est-ce qu'on arrive à avoir les farfadets qui parlent? Je ne sais pas s'ils parlent d'ailleurs, mais est-ce qu'ils peuvent parler patois, ou est-ce qu'on arrive à décerner dans des contes ou des légendes ce patois-là?
Oui, d'ailleurs, la plupart des contes qui ont été récoltés sur notre territoire étaient récoltés en patois. Donc tous les contes populaires, contes merveilleux, contes traditionnels, sont au départ en patois. Maintenant, est-ce que les farfadets continuent de nos jours à parler patois? Je ne sais pas.
Et vous, est-ce que vous parlez patois parfois, ou quelques mots, quelques brides dans vos contes et légendes? Ce que disait Mathieu à l'instant, c'est compliqué quand même d'avoir cette notion de phrase en patois.
Oui, je peux avoir des mots comme ça qui me reviennent aussi parce que j'ai entendu mes grands-parents parler patois, et puis je peux comprendre aussi des mots de patois, mais c'est vrai que j'ai encore des difficultés à vraiment mettre du patois dans les contes.
Mathieu, il y a d'autres anecdotes, il y a des exemples, je suppose, en patois qu'on peut trouver. Est-ce que vous en avez quelques-uns en tête?
On parle tout à l'heure de la guenouille. Je sais que j'ai un autre mot qui me faisait assez rire. C'était ma maman qui m'a raconté ça par rapport à ma grand-mère. Un habit spécifique qu'on utilisait tous les jours pour pas abîmer, salir ses vêtements, le souillen burnassou. Donc c'est une sorte de vêtement qu'on met par-dessus les autres, souvent superposés, pour pas abîmer. Donc il y a des mots comme ça qui sont même à l'oreille d'un enfant assez magique, et qui m'est resté comme cela en tête. Mais il y en a plein d'autres, mais généralement il faut être dans le contexte avec la personne pour, en parlant, qu'on arrive à retrouver dans sa mémoire certains mots qui sont vraiment spécifiques et qu'on ne trouvait pas. Je sais qu'à l'école, j'ai une autre anecdote où il y avait une chaussure qui traînait dans la cour du collège Saint-Joseph de Fontaine-Comte. Puis on a été voir la pionne, la surveillante. Il y a une grolle qui traîne par terre. Comment ça, il est où l'oiseau? Non, c'est une chaussure. Donc là, il y avait quand même quelques mots comme ça qui nous sortaient malgré nous dans notre enfance, comme le mot le veau, on appelait ça un boudet. Mais c'est vrai qu'il y avait une fois un de mes copains qui avait dit ce mot-là en cours de français. La réaction a été assez particulière du professeur. Je pense que maintenant, il en souriait. Mais là, à l'époque, on sentait que c'était pas le mot qu'il fallait utiliser. Et on était largement après la période de l'école républicaine, où c'était assez strict. Donc, on a quelques petits mots comme ça, fulgurance, on va dire. J'aime bien utiliser le mot choir.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça, tomber.
Ça, c'est vraiment un mot que je suis assez attaché. Puis il y a des mots, mais des fois même, qui sont pas qu'on peut pas traduire. Quand on a bien mangé, qu'on est repu. Nous, on appelle ça, on est benaise, on est gueudé. C'est des mots c'est assez difficile à traduire, mais que quand on le dit comme ça, dans un endroit en dehors du département, les gens nous regardent bizarrement. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire que, on peut gueuder, j'ai bien mangé, je peux pas en mettre un coup de fourchette supplémentaire, je suis repu.
Alors, en plus, parfois, tous les deux, si vous pouvez me répondre, mais parfois aussi, on a, en plus large, est-ce que c'est du patois, mais comme barrer la porte, cincer, c'est des mots qu'on utilise actuellement tous les jours. Cincer, c'est la serpillière, barrer la porte. Alors, souvent, on nous regarde un peu sur les départements, les autres départements. Mais t'as une barre pour barrer ta porte, voilà. Est-ce que ça reste du patois? Est-ce que vous utilisez, vous, ces mots dans le contexte?
C'est plutôt un des côtés spécifiques de chaque région, régionalisme. C'est vrai qu'il y a plein de mots comme ça, comme la serpillière, cincer, barrer, fermer la porte. Je sais qu'il y a pour le pichet, le bro, enfin il y a plusieurs d'autres exemples, pas forcément.
La poche,
voilà. Moi, c'est vrai qu'à Nantes, plusieurs fois, à l'époque, on avait encore les sacs plastiques dans les supermarchés, j'avais demandé, je veux bien une poche. Et la caissière m'avait regardé avec des drôles deux yeux à Nantes. Et là, je me suis dit, oula, là, j'ai traversé la frontière, je ne suis plus dans le même pays, on ne parle pas le même. Il y a crayon de papier, crayon de bois, il y a d'autres exemples. Et là, on n'est vraiment pas forcément sur le parlant, je m'en ai plutôt sur des expressions, peut-être qu'il y a aussi une origine. Mais bon, généralement, comme le patois peut se rattacher des fois à des mots qui ont une vraie origine, on va dire, latine ou de français du Moyen-Âge. Hein. On prend l'exemple du verbe choir, tomber, cheur. Pour le barrer la porte, tout simplement, oui, on mettait physiquement une barre à sa porte pour la fermer avant qu'il y ait des fermetures avec un cadenas ou autre système de fermeture plus complexe, tout simplement. Donc il y a toujours quand même une origine toute simple à l'expression, mais qui. Donc en France, finalement, on a quand même cette chance d'avoir une. Même si le territoire peut paraître petit à l'échelle d'autres pays, on a une richesse assez marquée d'expressions qui restent encore maintenant.
Céline, quand on compose un conte, quand on écrit une légende ou quand on écrit un conte tout simplement, ou même quand on les lit, est-ce qu'on utilise ces mots pour toujours se raccrocher à notre territoire?
Ces mots de patois?
De patois ou tout simplement même des mots un peu plus départementaux, ou voilà, est-ce qu'on essaye de les garder dans ces contes?
Alors ça dépend des histoires ou ça dépend des moments des histoires. J'ai pas d'exemple là qui me viennent, mais je pense qu'il y a des contes ou des histoires qui par moment on a envie que ce soit un peu plus universel, donc du coup on va utiliser vraiment des mots français qui peuvent être compris par tous et toutes, et puis donner une petite spécificité, oui, territoriale. Voilà, ça c'est des choses que je peux faire et que beaucoup de conteurs et conteuses font suivant leur région d'ailleurs.
Et on va parler d'autres légendes, je pense à Mélusine, notre effigie du territoire du Sud-Vendée, influenceuse, musicienne, chanteuse. Céline, Mélusine, elle est très importante et très impliquée sur ce territoire-là. Comment vous, dans les contes, vous emmenez Mélusine à votre public?
Oui, alors pour moi, la légende de Mélusine se rattache vraiment à la forêt de Mervent et au village de Mervent, Vouvant, puisque c'était des villages construits par la famille des Lusignans, et Mélusine se rattache à cette famille-là. En fait, moi, quand je raconte Mélusine, je la fais arriver de l'île d'Avalon, donc qui est perdue, on ne sait pas trop où exactement, mais du côté de l'Angleterre. Mélusine a fait tout ce long voyage, a traversé la Bretagne, et puis est arrivée après dans notre région, et c'est là qu'elle va rencontrer l'amour de sa vie, Raymondin, et avec qui elle va fonder la famille des Lusignans, et qui va faire émerger tous les châteaux, les abbayes des environs.
Est-ce que c'est un personnage principal des visiteurs, des fontenautes qui viennent sur le territoire du Sud-Vendée? À chaque fois, est-ce qu'on vous pose cette question, qui est Mélusine? Ou alors, s'il y a d'autres personnages ici en Sud-Vendée qui est plus important ou autant important? Elle va être jalouse un peu, Mélusine, si on apprend qu'il y a la concurrence, mais est-ce que vous sentez un peu dans votre public parfois ces questions-là qui arrivent?
Mélusine, oui, est un personnage très important et très connu, en tout cas de la région. Quand des touristes viennent ici, ils ont souvent entendu parler de Mélusine, même s'ils ne sont jamais arrivés, même s'ils ne sont pas venus encore sur notre territoire, parce que c'est une fée qu'on retrouve dans tout le Poitou, mais qu'on peut retrouver aussi, on en a des traces aussi dans l'est de la France. Elle est aussi rattachée par l'Angleterre, par l'île d'Avalon, à la fée Morgane, donc qui fait partie du cycle arthurien, donc des chevaliers de la Table Ronde. Donc elle est vraiment, c'est une fée qui est même assez reconnue un peu partout.
On était sur Mervent, Vouvant, Mathieu, on va aller un peu sur Fontaine. Alors Douai-les-Fontaines maintenant, avec le préfou, cette spécialité vendéenne, sud-vendéenne, qui nous raconte aussi ses histoires. Forcément, on va en savoir plus un peu sur ce préfou. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Oui, bien sûr. Donc le préfou de Fontaine, lié aux foires, les foires qui étaient très importantes. Et donc ce produit gastronomique vraiment typique de notre Sud-Vendée, on va dire grosso modo Fontenay-le-Comte et les régions autour, et donc Fontaine. Donc ce pain aplati à base d'ail, de poivre et de beurre, qui était cuit donc dans les fours des boulangers. Et donc le mot préfou, préfour, aurait peut-être une origine liée au fait que les boulangers, pour tester la cuisson, la température, ouverture de leur four à bois, mettaient un petit pâton de pain dans ce four et au vu de la couleur, la rapidité de la cuisson, ils pouvaient savoir s'ils pouvaient lancer ou pas leur fournée. Et ce petit pâton était ensuite mangé par le boulanger et en y mettant du beurre et bien sûr de l'ail. Et donc ce préfou au niveau de Fontaine, d'après nos recherches au niveau du collectage qui est effectué ces temps-ci au sein de l'association, aurait une origine assez complexe. On sait qu'à partir des années 50, toujours en lien avec l'activité de la foire, le boulanger de Fontaine a remis en valeur ce produit, mais qui était déjà existant dès les années 30 autour de Fontenay-le-Comte, et a relancé cette production de façon plus régulière, l'a proposé à la vente bien sûr lors des foires, mais ensuite de façon continue dans sa boulangerie. Et petit à petit, après ce produit qui était fort apprécié, a été repris par tous les boulangers du sud Vendée, de la Vendée, et puis pour retrouver maintenant, on va dire, dans toute la France, comme un produit connu et reconnu. Et puis bon, pour bien vraiment sauvegarder ce produit qui, on va dire maintenant, a des formes multiples, un projet de labellisation a été mis en place depuis l'année dernière. Et donc, pour pouvoir au moins fixer la recette du préfou dit traditionnel de Vendée, donc ce fameux pain aplati, beurré et aillé, et poivré aussi.
Et qui est toujours aussi bon. Alors voilà, toujours garder cette bonne coutume vendéenne. C'est vrai qu'on en voit beaucoup maintenant de d'autres formats, mais voilà, le vrai c'est le pain, le beurre et l'ail. C'est exactement ça. Maintenant on le voit décliner avec du fromage ou même autre, mais voilà, garder vraiment l'ossature du préfou. On va se battre un peu là-dessus quand même. C'est un peu notre force du sud Vendée. Une autre coutume, les balles. Les balles, je pense que la danse de la brioche, je pense aussi à ça. C'est des choses que... Est-ce que, Mathieu, tu as des infos dessus ou
oui,
pas?
Oui, alors, on va dire que la danse traditionnelle qui est mise en valeur et où on continue au sein de notre association de perdurer l'apprentissage des pas de danse. Les balles, on va dire jusque dans les années 50-60, par rapport à la vision qu'on peut l'avoir, c'est-à-dire animée par un musicien à l'accordéon, au violon, existait bien sûr dans toute la Vendée. Alors le côté spécifique de la Sud-Vendée, c'est qu'on est sur un territoire beaucoup plus ouvert, contrairement à ce qu'on pourrait penser actuellement. Et donc les modes de musique se sont très vite intégrés au sein de la population, contrairement aux Nord-Vendée qui ont su plus garder leur tradition de danse ancienne. Et encore plus certaines régions de la Vendée, comme en Noirmoutier ou l'Île-Dieu, qui ont vraiment des danses spécifiques qu'on peut remonter assez loin dans le temps. Nous, le Sud-Vendée, les nouvelles modes, comme les mazurkas, enfin, même si ça peut paraître maintenant des danses anciennes, ont fait disparaître nos danses anciennes. Et donc, c'est vrai que j'ai eu un peu plus de difficultés par rapport à des collègues du Nord-Vendée à retrouver certains types de danses qui étaient vraiment, on va dire, assez anciennes dans le Sud-Vendée. Vendée. Mais les balles ont bien sûr existé. Il y avait pendant les mariages aussi, je vais vous revoir collecter des vieilles photos du début du siècle ou fin 19e, où on voit un violonneux, un joueur de violon, donc qui était engagé spécialement pour animer le bal, le mariage aussi. C'est-à-dire qu'avant, il y avait le cortège, puis ensuite les danses lors de l'après-midi du mariage.
Et Céline, en parlant de violonneux, je crois qu'il y a un conte qui existe dans la forêt de Mervent.
Oui, un conte qui avait été récolté par Michel Gauthier il y a pas mal d'années de ça, récolté en patois d'ailleurs. Et ce violonneux, donc c'est un très très bon joueur de violon qui rentre chez lui après avoir animé un mariage pendant 3 jours et 3 nuits. Et donc épuisé, il est en train de traverser la forêt de Mervent, et puis là il se trouve à un carrefour et il hésite. Soit il prend le chemin le plus long et qui est sûr, soit il prend un raccourci, mais avec ce raccourci, on passe vraiment dans des endroits de la forêt un peu plus périlleux. Et finalement il va passer. Il va prendre le raccourci, évidemment, parce que sinon, il n'y aurait pas d'histoire, ce ne serait pas intéressant. Et là, épuisé, il va s'endormir au pied d'un chêne. Et quand il se réveille, il voit devant lui la Roubie, qui est le chef des loups, en fait. Un loup puissance 10, un énorme loup. Donc, ni une ni deux, notre violonneux réussit à grimper dans le chêne pour se protéger. Et la façon qu'il va trouver pour faire fuir la Roubie et puis tous les autres loups de la meute qui sont arrivés entre-temps, c'est de prendre son violon et de jouer un air du tonnerre. Et les loups ont une peur bleue de la musique, apparemment, et donc s'enfuient en courant dans la forêt.
Alors la musique n'a pas adouci les mœurs, mais a sauvé principalement le personnage de l'histoire dans cette forêt de Mervent qui reste mythique. Voilà, si vous écoutez cette émission, ce podcast, on se rend compte que voilà, cette forêt, elle reste légendaire et il faut bien sûr la maintenir et l'entretenir aussi pour qu'elle puisse continuer à faire voyager les touristes et les personnes du Sud Vendée. Pour terminer cette émission, un peu parler de votre actualité. Je vais commencer par l'association d'Actrad. Est-ce que vous avez des projets? Est-ce que vous avez des animations prévues?
Notre bal traditionnel, donc un petit peu plus loin que Fontenay, à Luçon, au courant février. Et puis bien sûr, là, mon projet le plus important, c'est le collectage des témoignages sur le prix fou. On est vraiment en plein chantier au niveau de cette activité pour pouvoir bien sûr finaliser le dossier pour que ça puisse ensuite enclencher le projet de labellisation.
Et si on veut adhérer à votre association, est-ce que vous pouvez avoir les contacts?
Oui, bien sûr. Le plus simple, c'est par mail à dactrad@orange.fr, tout simplement, pour pouvoir adhérer à l'association. Si vous voulez aussi apprendre à jouer de la musique, à danser ou toute autre activité liée à notre patrimoine, il n'y a aucun souci. Avec plaisir.
Et Céline, votre actualité, est-ce qu'il y a des contes et légendes qui vont s'entendre, alors dans la forêt de Mervent, mais ailleurs aussi?
Oui, des balades contées en forêt de Mervent, il y en a toujours. Là, je n'ai pas forcément de date à donner, mais par rapport au territoire et par rapport à la forêt, ma compagnie, la Fabrique des Échos, est partenaire en fait d'une nouvelle association qui arrive sur le territoire, qui s'appelle le Bureau de l'Imaginaire de Marovidua. Alors, Marovidua, c'est le nom celte de la forêt de Mervent. L'idée de cette association, c'est justement de promouvoir et de sauvegarder tout le patrimoine imaginaire de la forêt. Et cette année, nous allons organiser pour la troisième fois un festival des forêts légendaires, qui est en lien avec le festival des forêts légendaires de Brocéliande également. Et donc voilà, ça sera fin avril, un week-end dans la forêt de Mervent.
Et si on veut vous contacter pour participer à vos balades contées, comment on peut faire? Ou tout simplement avec vos légendes, vos histoires?
Eh bien, vous pouvez aller sur mon site, enfin le site de ma compagnie, fabriquedeséchos.fr, et là, vous trouverez tout ce que nous avons, et puis vous aurez les contacts.
Merci à tous les deux d'être venus dans nos studios en tant que fontenote pour parler des légendes et des histoires locales. Voilà, on a été sur les plus importantes, mais il y en a tellement de ces légendes, il y en a tellement de ces histoires locales. N'hésitez pas, vous-même, auditeurs, à commenter si vous avez des petites anecdotes sur nos réseaux sociaux, et puis vous pourrez retrouver les balades sonores au quartier général de l'Office de tourisme de Vendée Grand Sud à Fontenay-le-Comte. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour parler du savoir-faire sur le territoire. Merci encore à tous les deux. On se retrouve bientôt sur Dig Radio Sud Vendée.
Toute la journée, vous écoutez Dig Radio sur digradio.fr.